Je présente maintenant l'intervention de ce soir. Il s'agit d'Anne Cambon, elle sera donnée par Anne Cambon-Thomsen, qui est généticienne. Elle est née en 1949 à Toulouse. Elle est directrice de recherche au Centre national de la recherche scientifique et elle dirige l'unité INSERM U558 à Toulouse, unité qui est consacrée à l'épidémiologie et l'analyse en santé publique, risques, maladies chroniques et handicap. En 1978, elle a obtenu sa thèse de doctorat en médecine. De 85 à 90, elle a été directrice de l'unité INSERM, unité de recherche d'immunologie et immunogénétique humaine. Et de 87 à 97, directrice du centre de recherche sur le polymorphisme génétique des populations humaines et du centre d'immunopathologie et de génétique humaine. Elle est spécialiste d'immunogénétique humaine, de génétique épidémiologique et des populations, de génétique et de physiopathologie, de l'auto-immunité. Et puis, récemment, elle a ajouté un intérêt pour l'éthique de la génétique et de la santé publique. Elle est l'auteur, comme tous nos intervenants, de nombreux articles scientifiques dans des revues spécialisées nationales et internationales. Elle est éditeur scientifique d'un volume de génétique des populations. Je vais lui laisser la parole pour une cinquantaine de minutes. Et puis ensuite de quoi, elle répondra, Anne Cambon-Thomsen répondra aux questions que vous lui poserez. Je vous remercie.
Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci d'être là. Je voudrais remercier les organisateurs de ce grand œuvre de l'Université de tous les savoirs. De m'avoir permis de venir mettre mon grain de sel à cette entreprise de communication des chercheurs vers d'autres que leurs collaborateurs directs, de ce qui nous motive, les questions qu'on se pose. On va certainement partager des questions, partager peut-être quelques réponses quand on en a trouvé, et partager peut-être aussi des doutes ou des questionnements qu'on a aujourd'hui. Donc, ce vers quoi je vais vous mener maintenant, c'est une thématique sur laquelle il pourrait y avoir tout un cycle de conférences. Quand on parle gènes, population et maladie, je crois que vous pourriez avoir beaucoup de conférenciers passionnants et ne pas encore avoir fait le tour de la question. Donc, je vous expliquerai sous quel angle je vais aborder les choses. En fait, mon propos, c'est de partir finalement de la génétique des populations humaines à la génétique épidémiologique, donc les facteurs génétiques dans les maladies, et comment ça peut nous mener au travers de divers projets de recherche vers des problématiques de santé publique. Alors, ce que certains d'entre vous connaissent peut-être, c'est la génétique des populations sous cet angle. C'est une diapositive que j'ai empruntée à un livre de Cavalli-Sforza, Menozzi et Piazza, qui ont fait tout un livre sur l'histoire et la géographie des gènes humains dans les populations. Et le message, c'est avec des études de marqueurs génétiques qui, dans ce cas, sont des groupes sanguins et un certain nombre d'autres marqueurs, dont les groupes HLA, dont je vous parlerai aussi, on peut en fait arriver à retracer une géographie génétique qui correspond assez bien à l'histoire des populations. Mais avant de débuter, quelques définitions. En fait, la génétique des populations, c'est donc l'étude des caractéristiques génétiques des populations, ce qui amène à définir la structure génétique de ces populations et son influence sur l'évolution des populations. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'on peut soit utiliser les marqueurs génétiques, ces outils, ces gènes et leur polymorphisme, leurs différentes formes dans les populations, pour étudier les populations. À ce moment-là, notre but, c'est des questions par rapport aux populations, à leur histoire, à leur migration. Ou bien alors, on peut, connaissant des données sur les populations, se servir de ces connaissances pour poser des questions par rapport aux marqueurs génétiques et à l'évolution du génome. Donc, ce sont des outils qui peuvent être utilisés dans les deux sens, ces approches. Quant à la génétique épidémiologique, qui était le deuxième terme du sous-titre que j'ai choisi, qu'est-ce que c'est en fait? C'est l'analyse de la contribution génétique aux causes et aux mécanismes des pathologies. On peut faire des nuances en parlant d'épidémiologie génétique, et à ce moment-là, l'accent est mis sur le fait d'analyser quels sont les facteurs de risque génétique pour développer des pathologies. Et un des grands éléments actuellement en cours, dont je parlerai peu, mais qui est sous-jacent derrière tout ce que je vous dirai, c'est maintenant ce profil et l'analyse des interactions entre les facteurs génétiques de pathologie et les facteurs liés à l'environnement. Et il y a énormément de maladies qui font entrer en jeu dans leur développement aussi bien des facteurs génétiques que des facteurs d'environnement qui peuvent donc également interagir entre eux. Alors comment cette génétique des populations et cette génétique épidémiologique peuvent se rencontrer et s'apporter mutuellement des informations? On peut par exemple choisir de pratiquer une étude de génétique épidémiologique, j'en donnerai un exemple tout à l'heure, basée sur le choix de cette étude se fera sur les caractéristiques génétiques d'une population. Par exemple, on peut vouloir étudier une maladie et on requiert pour cela de nombreux cas dans une même famille. Et il est intéressant, si cette maladie existe, d'étudier des populations. Il y a beaucoup de familles très nombreuses où on pourra faire des études sur plusieurs générations. Donc le fait de connaître les structures génétiques, les caractéristiques de population peuvent amener à faire des études dans une population ou une autre pour avancer finalement plus vite sur les études de maladies. Pour un certain nombre d'analyses génétiques, ce vocabulaire est un peu technique, on a besoin de connaître les fréquences, c'est-à-dire la distribution des marqueurs génétiques dans les populations pour pouvoir appliquer des programmes d'analyse. Et de même, on peut étudier de la même façon l'influence de la structure et de la dynamique de la génétique des populations sur la fréquence des maladies. Par exemple, on sait que dans des populations consanguines, certaines maladies vont être plus fréquentes que chez des populations qui ne le sont pas. Donc, ce n'est pas du tout des thématiques qui sont étrangères l'une à l'autre. Et cette diapositive est simplement pour vous dire que c'est extrêmement d'actualité, ces aspects de répartition des marqueurs génétiques dans les populations, pour ce qui se développe beaucoup actuellement dans le domaine de la génomique, qui est la pharmacogénétique et la pharmacogénomique. Alors, qu'est-ce que ça recouvre, ces termes-là? Il s'agit de la réponse à certaines molécules thérapeutiques qui est variable selon les individus. Ça, c'est connu depuis longtemps. Ce qui est connu depuis un peu moins longtemps, c'est que certaines de ces réponses aux médicaments, notamment des effets secondaires qui peuvent être très ennuyeux pour les patients, sont génétiquement déterminées. Donc en fait, il y a l'idée sous-jacente aujourd'hui qu'on pourrait adapter les traitements en fonction de la constitution génétique pour les gènes qui sont pertinents par rapport aux molécules utilisées chez les malades. Et pour ça, bien entendu, il faut arriver à connaître la répartition, par exemple, dans une population donnée de tel ou tel marqueur génétique qui fait qu'on développera un effet secondaire pour un médicament donné. Donc cette génétique des populations qui était initialement très tournée vers l'histoire, le peuplement, l'histoire du monde, devient extrêmement impliquée et prégnante dans ce qui est beaucoup plus médical actuellement. Alors je vais me restreindre à la population française, parce que j'ai travaillé dans ce domaine-là et parce qu'il faut choisir dans ce vaste domaine de gènes, populations et maladies de certains thèmes. Donc je vous parlerai d'abord d'une étude qui est connue sous le nom de marqueur génétique dans les provinces françaises et qui a été aussi menée au Québec. C'est une étude qui a commencé dans les années 80-85. Ensuite, je parlerai des implications de cette étude-là par rapport à des études sur des pathologies qui ont été menées. Je vous donnerai un exemple dans le cadre du diabète. Et puis, deuxième implication vers la médecine, dans le domaine des greffes. Et là, on parlera de certains aspects des greffes de moelle osseuse. pour lesquelles la diversité génétique au niveau du système de compatibilité tissulaire qui s'appelle HLA est extrêmement importante. Et vous verrez que tout ça, finalement, on peut l'aborder via de la génétique des populations. Alors pourquoi on avait monté, il y a un certain nombre d'années, une étude sur la répartition de marqueurs génétiques dans la population française ? La partie gauche de la diapositive ici est en fait la diversité, non pas génétique, mais toute la diversité culturelle qui existe, représentée schématiquement sur cette diapositive. Et c'était en fait un char fleuri à une fête des fleurs à Luchon. Vous entendez mon accent toulousain, les Pyrénées ne sont pas loin, et c'est donc une diversité qui était mise en évidence dans un char fleuri. Alors, il existait, depuis que les groupes sanguins sont connus, c'est-à-dire qu'on connaît les premières diversités dans les systèmes génétiques qu'on s'est typés chez l'homme, il existait des données éparses, il y avait les centres de transfusion qui avaient leurs données sur les groupes sanguins. Il y avait des données dans certaines régions qui avaient été particulièrement étudiées, les Pyrénées, certaines parties de la Bretagne, l'Alsace, donc on ne manquait pas complètement de données, on savait qu'il y avait une diversité génétique en France. Mais ce qui se profilait, devenait important dans les années 80, était de plus en plus de descriptions, et on allait vers les essais de description des mécanismes d'association entre le système HLA et des maladies. Donc le système HLA, c'est un système qui est extrêmement important en immunologie et qui se trouve impliqué dans les greffes pour la compatibilité et la survie des greffons, dans la génétique de certaines maladies qui se caractérise par des dérèglements immunitaires en particulier, dont les maladies auto-immunes. Et il commençait à y avoir tout un tas de descriptions, de relations entre HLA, un groupe HLA donné ou plusieurs, et une maladie. Et on s'apercevait qu'on n'avait pas vraiment des données homogènes sur la France, sur la distribution HLA en France, en fait. Donc ça a été le point de départ. Alors bien entendu, on n'a pas étudié que HLA, mais également d'autres marqueurs qu'on savait faire à ce moment-là. Et toute cette étude a été faite avant que soient rentrées dans les mœurs coutumières des laboratoires les études sur l'ADN. Donc ce sont des études qui ont été faites sur des marqueurs qu'on étudie au niveau des cellules, au niveau du sérum, au niveau des protéines. Et ce qui a fait l'originalité de cette étude, c'est qu'elle a été pratiquée de façon coordonnée. Ce n'est pas un ensemble de données récupérées a posteriori. Ça a vraiment été organisé dans ce but. Alors, qu'est-ce qu'on a choisi ? Un certain nombre de régions, qui sont les petites zones que vous avez ici, là, sur la carte. Vous voyez qu'on a évité les grandes villes, que ce sont plutôt des zones rurales qui ont été étudiées. En fait, on a choisi 15 régions peu brassées. Également, une étude au Québec a été menée parallèlement. Et la base de l'étude, c'était 50 à 100, selon les régions, familles, parents et enfants, qui acceptaient de participer à cette étude et de répondre à un certain nombre de questions et d'avoir une prise de sang. Et 26 locus génétiques ont été étudiés, dont 8 dans le complexe HLA. Puis on a analysé tout ça. Donc ça fait un total de 1360 familles, c'est-à-dire en individus non apparentés, lorsqu'on calcule des fréquences sur les parents, c'est un ensemble de un peu plus de 2700. Alors je vais vous dire un mot avant de vous présenter des résultats sur ce fameux système HLA dont je vous ai déjà en partie parlé. Il comprend plusieurs gènes qui sont alignés sur le chromosome 6, une partie du chromosome 6. Et chacun de nous reçoit un haplotype, c'est-à-dire une combinaison HLA A, C, B, D, R, etc., de son père et une autre de sa mère. Ces combinaisons s'appellent des haplotypes. J'emploierai le mot à plusieurs reprises. Alors, ce qui caractérise ce système, et ce sont les données d'aujourd'hui et non pas de 1985, celles-ci, c'est le nombre de variants possibles à un locus, par exemple, au gène, au niveau du gène HLA-A, on peut avoir 243 modalités possibles. HLA-A1, HLA-A2, HLA-A3 et tout un tas de familles de ce genre. Alors que dans le groupe, chez les groupes AB0, par exemple, vous avez A, B, O et quelques variants. Donc vous voyez l'immensité de la possibilité de ce polymorphisme dans ce système-là. Donc il existe de très nombreuses combinaisons d'haplotypes. Chacun, dans la théorie, chaque allèle, c'est le nom des variants HLA-A, peut être associé à chaque allèle HLA-B, qui peut aussi être associé à chaque allèle HLA-DR, etc. Mais parmi ces combinaisons haplotypiques, ces haplotypes, certains sont fréquents dans la population et d'autres sont rares. Il y en a même qui sont complètement absents dans certaines populations. Et par ailleurs, il y a un phénomène dont je reparlerai à plusieurs reprises, qui est un phénomène de déséquilibre de liaison, certaines combinaisons, HLA, A, B, DR, étant plus fréquentes qu'attendues selon le hasard. Alors quand on fait des groupages, ce qu'on a comme données, ce sont des phénotypes HLA, c'est-à-dire cette personne est HLA, A1, A2, B44, etc. Et les haplotypes, c'est quand on est capable de réorganiser ces paires qui viennent pour chaque locus l'un d'un père et l'un de la mère en haplotype combinaison sur un même chromosome. Donc les données sur les familles donnent accès directement aux haplotypes HLA, mais quand on travaille au niveau des populations, on est obligé d'estimer les fréquences des haplotypes parce qu'on ne peut pas observer la transmission dans des familles. Donc l'intérêt dans notre étude était d'étudier des familles pour avoir accès directement aux haplotypes. Alors ça, on ne va pas s'y attarder, mais c'est juste pour vous dire que la carte HLA que je vous ai montrée précédemment est extrêmement simplifiée. Ça, c'est ce qu'on connaissait déjà en 1991. Le nombre de gènes dans cette région, vous voyez HLA-B, HLA-C sont ici, HLA-DR est ici, et il y a énormément d'autres gènes. Et alors ça s'est complexifié au fil des années. Je vous montre juste pour information les cartes qui sont celles de 1997, et on est maintenant à plus de 200 gènes connus dans la région. Donc vous imaginez ce que peuvent être des haplotypes où on étudierait tous ces gènes. Et dans la pratique, on se limite à HLA, A, B et DR dans beaucoup de cas, parfois quelques locus de plus. Alors ce déséquilibre de liaison dont je viens de parler, en fait, je vais peut-être le définir un peu plus précisément. Qu'est-ce qui peut le détruire quand vous avez un chromosome où il y a A, B et DR provenant d'un parent? Qu'est-ce qui peut le détruire? Le phénomène de la recombinaison, c'est-à-dire un échange lors d'une méiose entre les deux chromosomes. Et c'est finalement le phénomène de déséquilibre de liaison. Son évolution au cours des générations dépend du taux de recombinaison. Et vous avez ici une représentation empruntée à un livre de génétique. En fonction du nombre de générations, comment ce déséquilibre va diminuer selon qu'il y a beaucoup de recombinaisons entre les locus ou selon qu'il y en a très peu. Donc vous voyez que c'est un phénomène, lorsqu'il y a peu de recombinaisons, qui peut perdurer très longtemps. Ça, c'est plus accessible, c'est plus joli comme représentation. Je le dois à une étudiante qui est passée dans mon laboratoire, qui disait, voilà, des gènes, le triangle, le petit nuage, le carré. Voilà les allèles, ces formes à chacun des gènes, qui sont des nuances de couleurs de même forme. Et finalement, lorsqu'il y a réarrangement aléatoire au niveau des populations, on peut avoir n'importe lequel des allèles d'un locus associé à n'importe lequel des autres. Et lorsqu'il y a des équilibres de liaison, on voit très bien ici la combinaison carré bleu, nuage rose et triangle vert qui se retrouve beaucoup plus fréquemment et toujours ensemble. Donc finalement, c'est une représentation du déséquilibre de liaison. Il y a des haplotypes conservés dont l'un est écrit ici qui s'appelle HLA A1B8DR3. J'y reviendrai. Alors on a donc fait cette étude, beaucoup de familles, beaucoup de gens ont participé à cette étude. J'avais mis dans ma première diapositive que je convoquais dans cette conférence beaucoup de gens qui ont travaillé avec moi ou avec qui j'ai travaillé et avec qui je travaille encore. Et ceci vous donne une idée du résultat. Si on prend un gène, un allèle, qui était HLA-DR4, dans l'exemple qui est donné sur cette diapositive, la couleur bleue représente l'endroit où il est le plus fréquent. Et ensuite, les couleurs, les nuances colorées diminuent, et l'endroit où il est le moins fréquent est représenté en rouge. Donc vous voyez qu'on a un gradient, et qu'il est tout à fait vrai que pour des allèles HLA donnés. Ça reste vrai lorsqu'on les étudie au niveau de l'ADN aujourd'hui. On a, même au niveau d'un seul pays, comme le nôtre, des variabilités tout à fait conséquentes. On voit ici que donc pour DR4, il est maximal à l'ouest, dans le Finistère, et minimal en Béarn, au Pays Basque, et très faible en Corse. Alors, juste pour raccrocher aux maladies, on sait que ce marqueur, HLA-DR4, est associé à plusieurs maladies auto-immunes, plus ou moins fréquentes. Et être associé, ça veut dire qu'on le trouve plus fréquemment chez des patients que chez des contrôles, des personnes non atteintes par la maladie qu'on étudie lorsqu'on fait des études cas contrôle. Donc vous imaginez que si on ne vérifie pas l'origine géographique des malades lorsqu'on fait ce genre d'études et l'origine géographique des témoins auxquels on les compare, on peut dire des grosses bêtises, on peut faire des erreurs. Donc, un des premiers buts de cette étude-là était de voir dans quelle mesure il était important, au niveau même d'études faites au sein de la France, de vérifier précisément l'origine géographique des personnes qui rentraient dans ces études. On voit que ça n'est pas du tout trivial. Alors là, je vais revenir avec les notions d'haplotype que je vous donnais tout à l'heure. Ici, je ne vais pas vous en donner 15 comme ça, mais c'est quelques exemples. HLA-DR2, donc vous voyez qu'il est fréquent à l'ouest et à l'est de notre pays et beaucoup moins fréquent dans le sud. Et puis il y a une combinaison qui est une des plus fréquentes en France, donc un haplotype qui s'appelle A2B7-DR2. Et on voit que lorsqu'on considère la distribution de la fréquence de l'haplotype, la combinaison, et pas seulement un seul allèle à un seul gène, à un seul locus, on a une image assez contrastée et on voit que finalement ça reste DR2 sur cet haplotype reste fréquent dans le nord de la France, mais que par contre on voit apparaître ici par exemple une zone de fréquence importante de cet haplotype-là qui n'était pas caractérisée vraiment par une fréquence de l'allèle DR2 en tant que telle. Donc les haplotypes donnent des informations supplémentaires par rapport aux études qui n'étudient qu'un locus à la fois. Voilà le même type d'image pour HLA-DR3. Alors sur celle-là, je vais m'attarder un tout petit peu. Vous voyez qu'il y a une grande fréquence de l'allèle HLA-DR3 dans le sud-ouest, dans le Béarn, dans le Pays Basque en particulier. Et vous voyez que l'haplotype HLA-A1B8-DR3, dont je vous dis qu'il est le plus fréquent en France globalement et en Europe en général, est en fait très peu fréquent dans cette zone-là. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que HLA-DR3 dans cette zone est porté par d'autres combinaisons haplotypiques que la plus fréquente habituelle, HLA, celle-ci, A1B8-DR3. On y reviendra tout à l'heure parce qu'en fait, ici, c'est une combinaison qui est très, non pas spécifique, mais qui est très fréquente, particulièrement dans le Pays Basque, chez les Sardes et dans la zone d'Aquitaine et en Espagne, dans la zone du Pays Basque. Donc on voit qu'à travers ça, on voit déjà des populations qui se profilent. Un autre exemple ici, où là, vous voyez que les comparaisons sont beaucoup plus faciles entre ces deux cartes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cet allèle-là est le plus souvent porté sur cet haplotype. Il y a un certain parallélisme. Celle-là, je vais la passer. Et ceci n'est pas pour un grand commentaire, mais c'était suite à toutes ces cartes. date. Je vous ai un peu saoulé, je pense, avec ces images. Vous voyez bien qu'avec ce genre de données, on a besoin d'analyses beaucoup plus globales que les allèles ou les haplotypes un par un, bien qu'ils aient un grand intérêt en eux-mêmes. Donc, on fait des analyses de l'ensemble des données, par exemple des analyses multifactorielles, ou des analyses en composantes principales, ou des analyses qui ressemblent à des phylogénies, à des méthodes qui sont employées lorsqu'on fait des phylogénies entre espèces. Et on voit par exemple ici un exemple où les données sur le système HLA dans ces données sur les populations françaises, soumises à une analyse en composantes principales, permettent, selon le premier axe qui est représenté ici, résultant de cette analyse, de bien séparer la Bretagne, la Normandie, la Flandre, qui sont en fait ici, des régions du sud, Béarn, Catalogne, qui se projettent en fait ici. Et on voit également ici la région des Cévennes et d'Auvergne, séparée de Dauphiné et de la Bourgogne. Donc on arrive, avec ces méthodes plus globales, à avoir une géographie génétique accessible qui ne l'est pas lorsqu'on prend les systèmes un par un. Ceci a amené à faire une analyse globale de l'ensemble de ces données et à produire des cartes synthétiques qui synthétisent une bonne partie de l'information sur la diversité génétique en France abordée par cette étude. Cette analyse a été réalisée par Alberto Piazza, qui est un généticien de Turin, sur les données que nous avions produites en France. Alors, cette carte, la première carte synthétique, qui correspond au premier axe d'une analyse en composantes principales, a un certain nombre de nuances de vert que vous voyez ici et qui représentent des zones qui sont distinctes sur le plan génétique par les systèmes que nous avons étudiés. Vous voyez qu'on a ici un gradient nord-sud ou sud-nord, comme vous voulez. Il y a une assez grande différence, la nuance n'est pas la même entre l'Alsace et la Lorraine, par exemple. On voit bien ici toute la zone du Béarn et du Pays Basque qui se différencie. Donc, un ensemble de variations qui représente en fait 20% à peu près de la variabilité totale dans notre étude, qui est synthétisée en une carte, qui devient beaucoup plus lisible qu'un ensemble de cartes ou de tableaux de chiffres qu'on peut regarder. La deuxième carte, ici, qui est représentée en bleu, est indépendante, sur le plan des analyses qui ont été faites, de la première. Et vous voyez qu'on a presque un gradient inverse, dans l'autre sens, dont on peut essayer d'interpréter les significations en termes de peuplement, d'histoire. On pourrait considérer que celle-ci est la carte, les origines méditerranéennes, ici plutôt ce qui est venu de l'Europe centrale et qui petit à petit a constitué la structure génétique de notre pays. Ces cartes sont un peu moins lisibles parce que le rouge est un peu plus difficile à faire apparaître, mais vous voyez que ce qui correspond au troisième axe de cette analyse en composantes principales et qui résume à peu près 12% de l'ensemble de la variabilité, donc on arrive presque à 50% avec les trois cartes vertes, bleues et rouges qui sont ici, présente un gradient complètement inversé qui est est-ouest. Donc on voit là qu'on retrouve, à l'aide de ces quelques marqueurs génétiques sur des populations qui étaient originaires des régions où on les avait sollicitées, on retrouve en fait les grandes tendances de l'histoire du peuplement de la France. Et cette dernière carte est en fait la superposition des trois autres. Et là, je ne suis pas du tout spécialiste de linguistique, mais les spécialistes de linguistique disent que ce qui est frappant dans cette superposition des trois cartes, c'est qu'elle est très comparable à la carte des dialectes et des langues en France. Et il est tout à fait frappant, et ça a été reproduit dans d'autres pays, qu'il y a une grande cohérence entre les géographies génétiques abordées par les marqueurs génétiques et les géographies linguistiques qu'étudient donc nos collègues linguistes. Donc, on avait, à l'issue de cette étude, une idée sur la géographie génétique de la France et des idées précises sur un certain nombre de régions. Alors maintenant, je vais aborder, après avoir parlé de cette étude-là, et vous montrer des images où on peut synthétiser un tas d'informations à partir de données génétiques, je vais aborder un exemple sur l'implication de ce genre d'études pour des études de génétique des maladies. Et l'exemple que je vais prendre, c'est dans le cadre du diabète insulinodépendant ou diabète de type 1, qui est une maladie multifactorielle où il y a des facteurs génétiques et des facteurs d'environnement qui entrent en jeu dans son déterminisme et son développement et qui est associée au système HLA. Alors ça, c'est une diapo rapide juste pour dire que c'est depuis les années 70 qu'on sait que le diabète, c'est une abréviation anglaise ici, diabète de type 1, est associé avec le système HLA. Il y a donc dans les mécanismes quelque chose qui a à voir dans le dérèglement auto-immunitaire avec les régulations qui sont sous la dépendance du système HLA. Et un certain nombre d'allèles sont de susceptibilité ou de protection vis-à-vis de cette maladie. Donc un certain nombre de choses sont connues. Je ne pense pas qu'il soit utile de les préciser, mais on arrivait dans les années 80 et 90 à connaître des haplotypes HLA qui étaient associés au diabète, donc plusieurs gènes HLA au diabète dans différentes populations. Et là, c'était le grand flou. On ne comprenait pas. Dans certains cas, un allèle ou un haplotype dans une population était associé à la maladie, mais il ne l'était pas dans une autre. Et on ne comprenait pas toujours qu'est-ce qu'il pouvait y avoir derrière. Alors d'une part, la connaissance moléculaire précise a permis de mettre le doigt sur des différences qu'on ne savait pas voir avec des méthodes précédentes. Et d'autre part, on s'est aperçu qu'on pouvait se servir des données sur les populations pour essayer de mieux comprendre. Ça, je vais passer. Et je vais en venir ici. Alors, qu'est-ce qu'on connaît ? Non, pas du tout. Ça n'a rien à voir avec de la génétique, cette carte. C'est une carte d'incidence qui représente le nombre de nouveaux cas par an dans les populations, donc de diabète en Europe. Et c'est des données qui datent de 1992. Les zones en blanc, ici, représentent des zones de forte incidence, supérieures à 30. Et le diabète est une maladie fréquente, le diabète de type 1 dans ces populations-là, et devient un vrai problème de santé publique. Et puis il y a des zones où il est beaucoup plus rare, Portugal par exemple, en Italie. Donc on voit qu'il y a un gradient nord-sud. Et puis il y a là ce qu'on pourrait presque considérer comme une anomalie dans ce gradient. En Sardaigne, il y a une très forte incidence comparable à celle des pays du nord, de diabète insulinodépendant. Or, on sait que, enfin, les études de génétique des populations nous ont appris que cet haplotype-là, dont je vais vous faire grâce en ne vous le précisant pas, donc je le résumerai à 30B18DR3, est un haplotype qui est associé au risque de diabète insulinodépendant. Il n'est pas le seul, mais cet haplotype-là l'est particulièrement dans le sud de l'Europe. Des études en comparaison de cas et de témoins l'ont montré. Or, cet haplotype, sa plus grande fréquence au monde, c'est en Sardaigne. Et sa deuxième fréquence au monde, c'est en Pays Basque. Et l'étude dont je vous ai parlé précédemment a montré que la distribution génétique dans le Béarn, la partie d'Aquitaine proche du Pays Basque, était en fait très proche de celle qui avait été étudiée précédemment chez les Basques. On peut résumer un peu ce genre d'observation en disant qu'il peut y avoir un tas de phénomènes culturels qui se passent, mais les gènes et la distribution des gènes ont une durée très longue. Et finalement, la distribution des gènes qu'on trouve avec une grande fréquence chez les Basques, par exemple, aujourd'hui, recouvre la zone où on parlait basque au VIe siècle, à peu près. Donc la distribution génétique dans la zone de la région basque est assez caractéristique, en particulier fréquence de cet haplotype-là. Alors cette forme de fréquence de diabète est fréquente au nord, je vous l'ai montré sur la carte précédente. Et puis, ce qui a été, dans des études précédentes, ce qui a été observé, c'est que cet haplotype porteur là, de HLA-DR3 et d'autres marqueurs, il y a d'autres haplotypes différents pour d'autres marqueurs qui sont moins fortement associés au diabète, alors que le diabète de type 1 est principalement, de par les mécanismes qui sont derrière, associé avec les marqueurs qu'on appelle de classe 2, qui sont indiqués ici, DR, DQA et DQB. Donc en fait, on avait toutes ces données. Ceci posait un certain nombre de questions auxquelles on a essayé de répondre. Est-ce que le diabète est plus fréquent dans la région basque qu'ailleurs, en France ? À quels haplotypes HLA est associé le diabète chez les Basques ? Et pareil, des études ont été faites chez les Sardes, hein, parallèlement. Est-ce que cet haplotype... Est-ce qu'il est porteur d'autres facteurs de susceptibilité au diabète que ceux qui sont sur d'autres haplotypes porteurs de DR3? Donc ça, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile à aborder dans le domaine HLA, parce que le phénomène que je vous décrivais tout à l'heure de déséquilibre de liaison fait qu'il y a un phénomène d'entraînement, et quand vous avez... par exemple, j'ai pris tout à l'heure l'exemple de HLA A1, B8 et DR3. Quand vous avez DR3, vous avez très souvent B8 et A1, et il est assez compliqué de savoir si ce que vous observez par rapport à la maladie est dû à DR3 ou dû à B8 ou dû à A1. On a du mal à séparer les effets de ces différents marqueurs qui sont en déséquilibre de liaison. Donc on se demandait... comment il fallait faire pour mettre en évidence d'autres facteurs sur cet haplotype-là, et quel marqueur on pouvait utiliser pour définir cet haplotype chez les patients et chez les témoins. Est-ce que c'était le même chez les Basques et chez les Sardes? Est-ce que c'était le même chez les patients et chez les témoins? Est-ce qu'il y avait des choses particulières sur cet haplotype-là? Alors, ce qu'on a utilisé comme marqueur, en supplément des marqueurs HLA qu'on connaissait déjà, ça s'appelle des marqueurs microsatellites. Alors ça, si vous avez suivi des conférences de génétique, peut-être vous en avez entendu parler, ça n'a rien à voir avec l'espace. Il s'agit de petites séquences d'ADN qui sont répétées un petit peu partout dans le génome, de façon en fait ubiquitaire, il y en a à peu près un tous les 10 kilobases, et il y en a de nombreux dans la région HLA, comme ailleurs dans le génome. Ce qui les caractérise, entre autres, c'est que leur polymorphisme, c'est le nombre de répétitions qui est variable d'un individu à l'autre. Chez une personne, il peut y avoir la même séquence d'ADN répétée 10 fois, et chez une autre personne, la même séquence d'ADN au même endroit dans le génome sera répétée 15 fois. Donc c'est un polymorphisme de nombre de répétitions, et surtout, ils ont un taux de mutation qui est plus élevé que celui des gènes habituellement. Donc c'était bien d'avoir des microsatellites dans la région HLA, parce qu'on se disait que ces microsatellites qui mutent plus vite, qui évoluent plus vite, ils allaient en fait échapper au phénomène de déséquilibre de liaison qu'on observait sur les gènes HLA, et qu'ils allaient peut-être nous permettre de mettre le doigt sur d'autres marqueurs de susceptibilité aux maladies qu'on ne savait pas voir en faisant seulement les typages HLA. Alors donc, résultat de tout ça, on a fait des études chez les Basques, d'autres ont fait des études chez les Sardes, on a étudié des microsatellites et on essayait de répondre aux questions que je vous ai précisées précédemment. Alors qu'est-ce qu'on a trouvé comme réponse? Eh bien, le diabète n'est pas spécialement fréquent dans la région basque française, donc la fréquence est la même. L'haplotype d'intérêt... le fameux haplotype HLA-A30B18-DR3 que je vous ai déjà cité est très associé au diabète, aussi bien chez les Basques que chez les Sardes. En fait, ça a été un élément important pour étudier cet haplotype-là chez les diabétiques. Sa composition est la même chez les malades et chez les témoins, chez les Basques et chez les Sardes. Donc, résultat de tout ça, ça veut dire que la fréquence du diabète chez les Sardes, et peut-être aussi dû à la fréquence de cet haplotype dans la population, mais pas seulement, puisque d'une part, cette fréquence accrue de la maladie apparemment est relativement récente, a augmenté en tout cas récemment. Ça ne peut pas être les gènes qui, eux, durent, leur distribution est assez stable dans le temps. Ça ne peut pas être non plus quelque chose qui est différent sur cet haplotype entre les malades et les témoins, puisqu'on trouve pareil. Et en fait, on était très déçus par toutes ces études. C'était intéressant d'avoir beaucoup de marqueurs sur un même haplotype, mais on n'avait pas beaucoup avancé par rapport à la maladie. On avait quand même caractérisé un haplotype particulièrement important dans le diabète, et on avait utilisé ce que je vous disais au début de la conférence. On avait utilisé la propriété de ces populations pour aller voir si effectivement il y avait une association avec cet haplotype-là, ce qui n'était pas forcément évident dans des populations du Nord où on ne le trouve pas. Alors, on était quand même un petit peu déçus par ces résultats où on avait mis beaucoup d'espoir sur le fait d'utiliser des microsatellites pour avancer en disséquant les facteurs génétiques de la région HLA par rapport aux maladies, et on s'apercevait que ces microsatellites étaient soumis, au moins ceux qu'on avait étudiés, au déséquilibre de liaison et qu'on n'avançait pas davantage. Alors comme les chercheurs ont quand même toujours de l'imagination, on a dit bon, mais puisque ces microsatellites de la région HLA, qui sont quand même des éléments relativement faciles à typer comparés à la complexité des typages HLA avec tous les allèles, la grande diversité que j'avais décrit tout à l'heure, est-ce qu'on ne pourrait pas les utiliser à l'inverse? C'est-à-dire, typons des microsatellites de la région HLA et voyons dans quelle mesure ils nous permettent de prévoir quels seront les typages HLA. Et ça pourrait avoir des applications dans les transplantations. Et pourquoi ça serait intéressant? Notamment parce que les groupages HLA sont des examens qui sont chers et que typer un petit nombre de microsatellites revient beaucoup moins cher et peut être automatisé. Donc, on a étudié tous les différents microsatellites, enfin un certain nombre qui existent dans la région HLA. Beaucoup d'autres équipes ont travaillé là-dessus. On en a choisi quelques-uns qui sont indiqués là. Vous avez ici en bas les gènes HLA. J'ai positionné HLA-A, HLA-B, HLA-DR, qui sont ceux dont on parle le plus parce qu'ils ont une signification au plan immunologique et ils sont connus depuis longtemps. Et puis, donc, c'est quelques microsatellites. Et on s'est dit, est-ce qu'avec ça, en typant les microsatellites, quelles sont les relations avec HLA? Et ceci est une diapo qui résume un peu les résultats. On a pu acquérir une information intéressante sur les gènes et sur les haplotypes HLA en typant des microsatellites. Bien sûr, pour trouver ça, on a travaillé sur des échantillons qui étaient typés à la fois pour HLA et que nous typions pour ces microsatellites. Cette diapositive est empruntée à quelqu'un qui a fait sa thèse avec moi, qui s'appelle Alexandra Foissac. Donc, comment on lit cette diapositive? Ces pourcentages ici représentent le pourcentage d'informations acquises sur un gène HLA, quand c'est en bleu, à partir du typage d'un microsatellite, celui-là par exemple. On a les microsatellites ici, les gènes HLA ici, et ce qui est en bleu, c'est donc quantité d'informations acquises par ce microsatellite par rapport à ce gène ici. Quantité d'informations acquises par ce microsatellite MIP par rapport à ce gène HLA-B. Vous voyez que ce n'est pas négligeable. Entre 40 et 60 %. Donc on se dit, tiens, c'est intéressant. Ce qui était encore plus intéressant, c'est qu'avec un seul des microsatellites, on avait parfois une information importante, de l'ordre de 40 %, non pas seulement sur un gène, mais sur une combinaison, un haplotype HLA-ABDR. Ici, en prenant non pas les résultats sur un microsatellite, mais trois, celui-ci, celui-ci et celui-ci, on acquiert plus de 80% d'informations sur les gènes HLA individuellement et plus de 90% pour les haplotypes, les combinaisons ABDR. Alors en fait, notre grande frustration d'études qui n'avaient pas tellement donné des résultats intéressants par rapport aux maladies, on a retourné la situation en utilisant cette propriété, qu'on avait trouvé en fait un étudiant des populations, et en se disant peut-être qu'elle pourrait nous servir à quelque chose. Et c'est là que j'en viens à mon troisième élément. Je vais coupler en fait ce qui peut être pour l'organisation de certaines greffes et la diversité HLA dans le registre des donneurs volontaires de moelle osseuse en France. Et vous comprendrez dans un petit moment pourquoi ces histoires de microsatellites sont intéressantes dans ce contexte-là. Alors, le contexte de la filière de la transplantation des cellules souches hématopoïétiques. Comment ça se passe ? Le meilleur donneur, lorsque un malade atteint de leucémie, par exemple, a besoin d'une greffe de moelle osseuse, autrement dit d'une greffe de cellules souches hématopoïétiques, pour être exact, c'est son frère ou sa sœur HLA identique. Mais dans beaucoup de cas, cette situation n'existe pas dans la famille. On a une chance sur quatre d'avoir un frère ou une sœur HLA identique. Chaque frère ou sœur peut, a une chance sur quatre d'être HLA identique avec le patient. La compatibilité pour HLA est un élément important de la survie de ces transplantations, et notamment ce qu'on appelle la réaction du greffon contre l'hôte, c'est-à-dire comment on greffe des cellules immunologiquement compétentes, qui sont les cellules de la, qui vont devenir les cellules du sang. Non seulement le receveur peut rejeter la greffe, mais la greffe, si elle reconnaît le receveur comme étranger, comme ces cellules ont la capacité immunologique, elles peuvent aussi entraîner des phénomènes pathologiques graves en attaquant, si vous voulez, les tissus du receveur. Donc, cette compatibilité HLA est particulièrement importante pour les greffes de moelle. Quand on n'a pas de donneur dans la famille, ben on cherche ailleurs. Alors, depuis 1974, notamment en Angleterre, et surtout depuis 1987, il y a eu des registres qui se sont montés dans les pays qui pratiquent les greffes de moelle. Et ces registres sont finalement un ensemble de gens qui se portent volontaires pour, s'il y a besoin de leurs cellules pour faire une greffe, de devenir donneur. Et comment on va trouver si un tel ou un tel peut être un donneur? En fait, on accueille ces personnes, on leur fait un certain nombre d'examens, parmi lesquels le groupage HLA, et tout ça est inscrit dans un grand registre. Lorsqu'un patient n'a pas de donneur dans sa famille et a besoin d'une greffe, on interroge sur la base de son groupage HLA, du malade, on interroge les registres de donneurs en France et en fait dans le monde également, puisqu'il y en a dans beaucoup de pays maintenant, et on essaie de trouver un donneur compatible avec le patient. Et à ce moment-là, il y a des vérifications de typage et le don de moelle et la transplantation suivent. Alors, comment on raccroche tout ça à la génétique des populations ? Les patients qui ont un groupage HLA fréquent, ils vont trouver plus facilement que les autres un donneur dans ces situations, qu'ils aient ou pas un donneur dans la famille. S'ils n'ont pas de donneur dans la famille, qu'ils aient un groupe HLA fréquent, ils ont de grandes chances de trouver un donneur. Les patients qui ont un groupe rare n'ont pas la même chance, donc il y a une inégalité d'accès à cette thérapeutique qui est fondée sur la diversité génétique. Alors on s'est demandé si cette diversité qu'on avait trouvée en France lorsqu'on a fait une étude sur des familles appartenant à certaines régions avec toute une enquête, qu'est-ce qu'il y en était si on étudiait la diversité génétique au sein du registre de donneurs potentiels, donc de cellules souches hématopoïétiques en France. Ceci a été publié par mes collaborateurs Christine Longjou, John Clayton en 1995, et c'est fait évidemment en relation avec l'association France Greffe de Moelle qui gère en fait et s'occupe du fichier de donneur. On voit sur cette carte que ceci devrait être rouge, ça ressemble à cet orange, mais en fait c'est rouge. Donc il y a cinq nuances colorées, cinq groupements de régions qui se différencie parmi les 20 régions administratives et sur la base de leur structure en haplotype HLA, telle que je vous l'ai décrite tout à l'heure. On observe aussi, ceci n'est pas visible sur la carte, qu'il y a des régions où il y a une plus grande diversité d'haplotypes. Donc, il y a des régions où il y a plus de variabilité, plus de diversité HLA que dans d'autres, même au sein de notre région. Donc ça peut donner des idées, ça, comment on pourrait organiser les campagnes de sensibilisation de la population dans les zones où on a plus de chances de trouver de la diversité HLA, par exemple. Donc on voit bien que de la génétique des populations, on peut glisser vers une application en santé publique. Et donc, effectivement, on retrouve chez ces donneurs pour lesquels on n'a aucune information sur l'origine, la seule chose qu'on sait, sur le plan de leur géographie, c'est l'endroit où ils ont été typés HLA, ce qui est l'endroit où ils vivent, ce qui ne donne pas forcément d'informations sur l'endroit dont ils sont originaires. Mais on voit que dans cette population donc, sur laquelle on n'a pas d'informations sur l'origine, on a quand même une distribution HLA extrêmement diversifiée au sein même de la France et relativement comparable à ce qu'on avait sur l'étude qui avait été faite précédemment. Alors ce registre en France, il existe depuis 1987 et je rappelle donc que 70% des patients n'ont pas un donneur dans la famille. Donc dans 70% des indications de greffe, on fait appel ailleurs. Et ceci pour vous donner une idée des chiffres, il y a près de 107 000 donneurs aujourd'hui dans ce fichier français et l'ensemble des registres au niveau mondial représente 7,8 millions de donneurs possibles. Les chiffres pour 2001 en France, c'est qu'il y avait 856 patients qui demandaient à être greffés, enfin qui nécessitaient une greffe en 2001. Et 234 ont pu être greffés, dont 57 à partir d'un donneur du registre français. Les autres ont été greffés à partir de donneurs de registres étrangers. Mais vous voyez qu'entre les 856 qui attendaient et les 234 qu'on a pu greffer, il y a quand même un grand gap. Donc, on se dit, on est en fait lancé dans un programme qui adresse la question comment pourrait-on augmenter la diversité génétique, HLA, dans ces registres de donneurs. On peut bien sûr augmenter le nombre de donneurs. Mais d'une part, il y a un problème de coût. Les groupages HLA sont des examens chers, donc on ne peut pas augmenter à l'infini, même si les personnes se présentaient pour être donneur potentiel. On ne peut pas augmenter à l'infini ce registre. Et d'autre part, à un moment donné, à cause des combinaisons HLA fréquentes dans la population et de celles qui sont rares, on finit par plafonner. Et pour obtenir un petit peu plus de diversité, il faut typer un très grand nombre de personnes. Donc on est en train de se demander, là on est dans l'actualité de ce qu'on fait, comment on pourrait distordre d'une certaine façon ce recrutement pour le registre afin de favoriser l'arrivée de nouveaux phénotypes HLA et non pas la répétition à la 350e, au 350e exemplaire, par exemple, d'un groupage fréquent HLA A1, B8, DR3, pour en prendre un que je citais tout à l'heure. Alors on en est venu au concept de filtre moléculaire en première étape et c'est là que les microsatellites, que j'avais laissés un peu de côté pour le moment, refont leur apparition sur la scène. Ces microsatellites dont je vous ai dit, ils pourraient, on est en train de le vérifier, mais d'après nos premières expériences, ils pourraient permettre de prédire des groupages HLA. Et ils coûtent moins cher que les groupages HLA. C'est peut-être une façon, lorsque des donneurs se présentent, de voir s'ils ont une chance importante d'apporter une nouvelle diversité au fichier ou s'ils apporteraient des informations HLA qui y sont déjà présentes, auquel cas on pourrait faire une priorité de typage vers ceux qui ont la plus grande chance d'apporter un typage HLA nouveau. Il y a d'autres marqueurs dont je ne vais pas parler parce que je n'aurai pas le temps, mais d'autres méthodes moléculaires actuelles, les polymorphismes de nucléotides uniques, qui est les single nucleotide polymorphism, on emploie toujours l'abréviation anglaise SNP, qui existe bien entendu dans la région HLA où il y a une grande diversité. Et on peut imaginer des stratégies où, avec des marqueurs actuels, donc on est en plein dans la technologie moléculaire actuelle, et en choisissant bien certaines stratégies et avec une bonne étude économique derrière, on pourrait trouver des stratégies qui auraient un intérêt en santé publique tout à fait important. Et on peut également aussi varier la population cible des campagnes. On sait très bien que ce n'est pas l'ensemble de la population qui répond présent ou qui est même seulement au courant, qui a accès à l'information sur on peut être donneur, voilà ce que ça représente, etc. Donc il y a actuellement en cours un programme européen qui s'appelle MADO, pour Marrow Donor, ça veut dire donneur de moelle en anglais, et qui, en fait, vient de démarrer cette année, que je coordonne, et qui est basé sur cette idée de base, cette idée première. Et le propos est d'étudier des moyens d'optimiser les programmes de typage et les stratégies de recrutement en Europe pour ces registres de donneurs qui ont une importance pour pas mal de patients. Alors, je vais vous expliquer, ça sera un petit peu la fin de mon intervention. Hop, voilà. Comment ça s'est monté, ce programme ? C'est donc un projet européen dans ce qui s'appelle le cinquième programme cadre de la recherche européenne, qui est en cours et qui comporte 14 partenaires dans 5 pays, donc l'Angleterre, la Hollande, la France, l'Italie et la Hongrie, qui viennent de rejoindre le consortium. C'est pas encore en fait signé. Il est extrêmement multidisciplinaire dans la mesure où, pour faire le type de travail que j'évoquais avec vous, là, quelles sont les bonnes stratégies, comment peut-on contacter différentes populations, il y a des spécialistes en développement technologique pour savoir choisir les microsatellites, les SNP, etc. Il y a des responsables de registre, acteurs de la filière, des immunogénéticiens qui sont des spécialistes des groupages HLA, des économistes, des sociologues également pour toute la partie sociologie, des juristes, et toute une partie du programme a une dimension éthique. Parce que vous voyez que se demander comment on pourrait finalement atteindre des minorités dans notre pays qui ne sont pas au courant de ces possibilités de données, ou qui peut-être culturellement ne sont pas portées, on n'en sait rien, à ce genre d'activité, il y a quand même toute une question derrière, se dire comment peut-on faire une information adaptée tout en respectant parfaitement les personnes, les gens. Donc il y a toute une réflexion éthique derrière. Comment peut-on annoncer, par exemple, à un donneur qui arrive généreusement en disant « je voudrais devenir donneur si je peux être utile un jour ». Lui dire, bon, ben, d'après les premiers typages, on va vous mettre en queue pour la priorité de typage parce que vous n'allez peut-être pas apporter une nouvelle diversité au fichier. Donc il y a vraiment des questions importantes, autres que les questions techniques ou les questions scientifiques de répartition des allèles dans les populations. Et ce qui m'intéresse dans ce programme-là, c'est qu'effectivement, on arrive, et c'est peut-être une transition par rapport à ce qui vous était présenté tout à l'heure comme le futur cycle de ces conférences de l'Université de tous les savoirs, qui sont les découvertes ou les travaux aux marges et en interdisciplinaire. Alors ce projet, il se propose donc d'optimiser les registres de cellules souches hématopoïétiques en Europe en augmentant finalement l'adéquation immunogénétique entre les besoins des patients et les donneurs potentiels, et de façon à pouvoir augmenter la proportion de donneurs ayant un phénotype HLA rare, ou du moins pas trop fréquent, dans ces registres-là. Et pour ça, donc, on est en plein dedans pour le moment, et c'est là qu'intervient le concept de filtre dont je vous parlais tout à l'heure. La flèche du haut ici représente ce qui se passe actuellement. Une population est informée de la possibilité de devenir un donneur potentiel. Les gens se présentent, leur typage HLA est fait, il y a un registre, donc, et puis qui peut servir, qui peut être interrogé pour les patients. Et ce qu'on se propose de faire, c'est de faire finalement une approche de typage HLA, peut-être probabiliste. On aurait un registre de niveau 1, et on se servirait des informations acquises sur ce, grâce à ce filtre moléculaire pour faire des priorités de typage pour avoir un registre optimisé pour les patients. Donc voilà un peu l'histoire de ce projet dont vous voyez que je vous ai parlé d'études de 1980 et puis d'un projet en cours qui vient de démarrer cette année dont on n'a pas encore les résultats. Et tout ça est ancré sur progrès dans la connaissance d'un système donné au niveau moléculaire, de la génétique des populations et des préoccupations de santé et de santé publique, ce qui me ramène à ma formation initiale de médecin. Alors je crois que je vais en fait arrêter là, mais je profite de la situation pour vous montrer cette photo. Vous n'avez peut-être pas l'occasion d'avoir vu le professeur Mourant, qui est un des pionnier dans la génétique des populations des groupes sanguins. Il a fait un énorme volume de distribution des groupes sanguins dans le monde. Et le professeur Dossé, que vous connaissez peut-être pour sa découverte des groupages HLA, et qui étaient en fait tous les deux là à un colloque à Toulouse au moment où on commençait à analyser les résultats de l'étude dans les provinces françaises. Et je terminerai là-dessus en vous disant que la Toulousaine qui est sous le chapeau et qui est aussi devant vous, vous remercie de votre attention.
Cette difficulté à trouver des donneurs suppose qu'on ne peut pas cultiver les cellules souches, parce qu'à ce moment-là, ce serait... on pourrait avoir autant de matériel qu'on pourrait transmettre qu'on voudrait.
Alors, même si on pouvait les cultiver, avoir un exemplaire de chaque groupe HLA dans les différentes cellules souches, ça fait des millions, ça fait des milliards. Donc... la difficulté à les... effectivement, pour le moment, on greffe des cellules qui n'ont pas été cultivées. Mais si on pouvait les cultiver, ça ne résoudrait pas, à moins d'avoir des cellules autologues, hein, des personnes, ça ne résoudrait pas le problème de la difficulté qu'on a à cause de la diversité.
Moi, je voudrais poser une question par rapport aux mutations génétiques. Donc il y a des mutations génétiques. Est-ce que il y a aussi une mutation du système HLA? Si oui, est-ce qu'il y a des facteurs environnementaux qui font qu'il y ait cette mutation du système HLA? Merci.
Alors dans l'évolution du génome, les mutations sont une des modalités d'arrivée de diversité. Il en existe au niveau du système HLA comme dans les autres gènes. Ce qui influence le taux de mutation ou qui provoque des mutations n'est pas spécifique d'un gène particulier. C'est-à-dire, si vous êtes par exemple exposé à des rayonnements, il va y avoir davantage de mutations ou de cassures, mais ça ne sera pas plus sur le système HLA que sur un autre système. Donc il existe, oui, des mutations sur le système HLA. Une grande partie des allèles, ces kyriels d'allèles qui existent à chacun des locus, est arrivée par phénomène de mutation au cours de l'évolution. Ce qui influence le maintien de certains de ces polymorphismes, et qui est fortement évoqué pour le système HLA étant donné son rôle dans la réponse immunitaire, ce sont des phénomènes de sélection qui favoriseraient la plus grande diversité possible, qui correspond à des capacités de défense immunitaire contre davantage d'agresseurs au sens des micro-organismes, par exemple, par rapport à une trop grande homogénéité.
Oui, bonjour. Bonjour. J'ai une question concernant la distribution dans les régions. pourquoi à certains moments et dans certaines régions, certains haplotypes vont être plus fréquents que dans d'autres. Comment ça se passe et pourquoi à certaines régions, il y a plus de fréquences que dans d'autres, enfin, quel est le phénomène qui est derrière ?
Alors, c'est là où j'ai peut-être pas passé suffisamment de temps sur le commentaire des cartes, mais j'avais une carte que j'avais pas mise qui correspond à l'histoire des invasions et des migrations de populations qui ont fait le peuplement de la France. C'est une des raisons pour laquelle on avait choisi d'étudier ce pays, en fait, parce que la richesse de son histoire du peuplement laissait présager qu'on trouverait une grande diversité allélique et d'haplotypes. Alors, pourquoi il y a plus de certains haplotypes, par exemple, dans l'Est ou en Normandie, et qui correspondent justement à des haplotypes fréquents. Là, je me suis limitée à la France, je ne vous ai pas montré l'Europe, mais par exemple, on retrouve en Normandie et en Bretagne des haplotypes très fréquents dans les pays du Nord et en Angleterre. On retrouve dans l'Est de la France des haplotypes fréquents dans les pays de l'Est de l'Europe et en Allemagne. On retrouve dans le Sud, en Corse en particulier, des haplotypes qui sont fréquents en Italie. Donc une bonne partie des fréquences et des modalités observées pour tous ces polymorphismes correspondent et permettent de retracer en fait les mouvements de population.
C'est un peu intriguant de voir qu'il y a beaucoup plus de mutations dans les microsatellites que dans les zones HLA par ailleurs. Est-ce que c'est par le fait qu'ils sont non codants et que donc il n'y a pas de sélection qui s'exerce sur eux ? D'autre part, c'est intéressant de voir que vous avez travaillé surtout sur les provinces profondes. Est-ce que si vous travailliez, si au contraire vous alliez chercher les villes et les villes dans les endroits où il y a la plus grande diversité de population, à Paris ça se trouverait assez facilement, est-ce que ça ne vaudrait pas le coup justement pour aller à la pêche aux haplotypes différents ?
Tout à fait. Alors sur la première question, c'est effectivement une des hypothèses. Puis les mutations au niveau d'un microsatellite, ça veut dire quoi ? Ça veut dire ajout ou suppression du motif répété une fois en plus ou une fois en moins. Donc le mécanisme derrière ça est une erreur de la polymérase, l'enzyme qui copie au moment où se répète la mutation. Donc le mécanisme est différent d'une mutation ponctuelle, le changement de base, hein, par exemple. Donc effectivement, c'est un des éléments de réponse. Et par rapport à ce que vous venez d'observer sur les régions brassées où on a plus de chances de trouver des haplotypes rares, c'est tout à fait vrai. Et par exemple, nos collègues anglais, pour l'instant, recrute seulement à Londres pour un registre donné, enfin pas tous les registres d'Angleterre, et dans certaines régions particulières. Donc effectivement, autant pour faire l'histoire du peuplement et faire une géographie génétique, il était intéressant d'étudier ce que vous avez appelé la France profonde, autant pour essayer de récupérer et faire la pêche, pour reprendre votre mot aux haplotypes rares, travailler dans des villes, est tout à fait possible et intéressant, et c'est fait dans certains cas.
Bien, Anne Comte-Thompson, merci.